culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.
Auditeur, auditrice, bonjour. Je ne sais pas vraiment où tu te trouves. Tu nous écoutes peut-être en live, tu nous écoutes peut-être avant d'aller au boulot ou alors tard le soir quand tout le monde est au lit. Quel que soit le moment de la journée ou de la nuit, je te souhaite la bienvenue au Culte Espoir. Ici, tu es ici chez...
Toi.
Merci. Alors, je ne suis pas seul, comme vous l'entendez. Fort heureusement, je suis accompagné d'Amandine et de Mildred. Bonjour les filles.
Bonjour.
Salut Brian.
Et pour ce premier culte du mois d'octobre, nous avons le plaisir de recevoir Sephora Gracchus. Sephora, bonjour.
Bonjour.
Alors, je crois savoir que tu es en études, c'est cela ?
Effectivement, je suis en dernière année de master en théologie, donc content d'être avec vous pour partager ce moment.
Ah ben, c'est nous qui sommes vraiment contents de t'avoir.
Plaisir partagé en tout cas. Merci d'avoir accepté cette invitation. D'ailleurs, tu viens pour une série de deux cultes, c'est bien ça ?
Exactement.
Alors, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ?
Alors, aujourd'hui, je vais parler de la colère.
Allez, on se cache.
Ok, alors très intéressant. Que le Saint-Esprit t'accompagne dans ce que tu vas nous partager et qu'il nous guide tout au long de ce culte. Auditrice, auditeur, bonne écoute. Comme toujours, nous commençons par la chronique « Dieu dans ma semaine », une chronique où nous voyons l'action de Dieu concrètement dans nos vies. Alors Amandine, la parole est à toi.
Bon, à nouveau, le thème du jour m'a plongée, comme souvent quand je prépare ces cultes, dans des réflexions assez intenses, merci. La colère, qui n'a jamais été en colère. Alors pour ma part, ça a été un vrai travail dans ma vie intérieure au fil des années pour déceler la colère que je peux parfois ressentir, nourrir, à laquelle je peux m'accrocher sans me rendre compte. J'ai découvert il n'y a pas longtemps un chrétien qui s'appelle Ed Smith, qui a développé un ministère qui s'appelle Transformation Prayer Ministry. Donc, il a développé une approche thérapeutique chrétienne, si je puis dire. Alors, je ne suis pas du tout une spécialiste de son approche, mais j'ai eu l'occasion de lire et écouter certaines de ses réflexions sur la colère. J'ai trouvé certaines notions assez intéressantes.
Mais qu'est-ce qu'il raconte, Amandine ?
Alors, je vais te dire ça.
Vas-y, ça m'intéresse.
Alors, il dit notamment, la colère, bon, ça c'est, tout le monde le sait, la colère est une émotion que l'on ressent envers quelqu'un, soi-même, l'autre Dieu. Certaines personnes croient, inconsciemment ou consciemment, que la colère qu'ils ressentent envers quelqu'un, envers quelque chose, leur est en fait utile, leur sert à quelque chose. La colère peut donner un faux sens de contrôle, de pouvoir, de protection. La colère semble cacher aussi d'autres émotions. Je peux me sentir triste, vulnérable, mais si je suis en colère, je ne vais plus être en connexion avec ces autres émotions, comme si la colère, elle bloque l'accès à ces autres émotions. Et puis la colère rend difficile toute tentative d'entendre. Quand je suis en colère, ça va être difficile d'entendre la voix de l'autre. Dans mes lectures, je suis tombée sur une forme d'exercice. Bon alors, si on veut, je te donne un exemple. Imaginons que tu sois en colère. Et imaginons que quelqu'un te demande ceci. Qu'est-ce qui se passerait si tu arrêtais d'être en colère envers telle personne ? Réponse possible. Laisse-moi réfléchir. Je pourrais être à nouveau blessée. Ou, attends, mais cette personne pourrait sortir de cette situation sans aucune conséquence pour elle. Sans cette colère, j'aurais plus le contrôle sur cette situation. Ou faudrait que je fasse le deuil de quelque chose, là. Une relation, par exemple. Non, merci, en fait, je n'ai pas lâché ma colère, elle est très très bien. Je la garde. Ah bah oui, si je crois même inconsciemment que la colère m'est utile, si je crois, par exemple, qu'elle me sécurise, qu'elle me rend justice, si je crois qu'elle me permet de tenir une personne envers qui je suis en colère comme responsable, si je crois qu'elle me permet de punir les autres, je ne vais pas réussir à lâcher cette colère. Je peux me repentir de cette colère, mais pas vraiment lâcher prise parce que ce n'est pas sécurisant. Ça ne fait pas sens. Ça ne me rend pas justice. Alors si je prends conscience grâce à Dieu de la croyance que j'ai construite autour de ma colère, du mensonge qui s'est créé autour de cette colère, de pourquoi je pense avoir besoin de cette colère, si Dieu met sa vérité sur ma situation, ma conception des choses, ben, je pourrais alors lâcher cette colère sans effort, parce que sa vérité me rendra libre. Bon, alors ces lectures m'ont fait réfléchir, comme tu peux voir. Je me suis reconnue des fois, et puis je trouve finalement que c'est assez réconfortant de me dire que c'est humain de ressentir de la colère parfois. C'est une stratégie bancale en fait, mais de défense finalement. Maintenant, je le vis quand même comme une responsabilité de ce que je décide d'en faire de cette colère. Et ça me donne envie de laisser Dieu me montrer sa vérité pour être libre en fait. Et c'est bon de savoir qu'il y a un chemin de restauration et de liberté possible avec Dieu.
Voilà un verset que j'aimerais te partager. Il se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 3 et le verset 11. Alors il est dit « Et l'Éternel me dit, Israël infidèle, paraît plus juste que Judas la perfide. Va et crie ses paroles en direction du nord. Reviens Israël, l'Éternel le demande. Je n'aurai pas plus pour toi un visage sévère, car je suis bienveillant. L'Éternel le déclare, je ne serai pas en colère pour toujours. » Alors je trouve intéressant cette idée de la colère envers le peuple d'Israël que Dieu en fait ne garde pas malgré leurs infidélités, malgré leurs fautes. Dieu, contrairement à l'homme qui peut garder cette colère ancrée vraiment en lui, ne l'a pas gardée sur la durée, mais bien au contraire, il est, et le texte le souligne, il est bienveillant. Alors quels que soient les actes que tu entreprends, les fautes, les manquements, si tu es en colère contre toi-même, sache que Dieu, lui, ne l'est probablement plus. Alors auditrice, auditeur, sois béni.
Bon, vous connaissez l'expression « exploser de », suivi d'une émotion vive de ton choix. Alors aujourd'hui, on va plutôt parler d'exploser de colère, exploser de rage. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Patrick Bonhomme va nous proposer une autre expérience. Exploser en louange. Face à la colère, Dieu est notre source d'espérance, car il peut venir révéler sa vérité dans nos vies et ainsi apaiser notre colère et nous ouvrir à la joie. Je t'invite à écouter cette invitation de Patrick Bonhomme à exploser en louange.
Je ne sais pas où tu es, ce que tu traverses, ni l'heure que tu as à ta montre. Mais une chose est sûre, c'est un bon moment pour exploser en louange. Oh! Woo! Oh! Come on! Celle-ci pour celle ou celui qui n'a pas honte de les lever. Je le sais.
Je ne sais pas si tu sais pourquoi.
Je suis là.
Je suis là.
Oh.
Mais en tout cas.
Woo. Come on. Tout le monde. Come on. Come on.
Je ne sais pas qui tu représentes.
Pourquoi tu danses.
Pourquoi tu danses. Et pour qui tu chantes. Mais.
Come on. Tout le monde. Je suis pas venu de Calvin, je suis venu.
Je t'ai venu avec une louange sur mes lèvres et une adoration entière.
Et mon cœur place
plus fort.
Ma chair embrasse mon Seigneur.
Oh, hallelujah. Oublie tes problèmes, tape les mains, tout le monde. Je ne sais pas.
Je ne sais pas.
Je
ne sais pas qui tu représentes.
Pourquoi tu danses.
Pourquoi tu danses et pour qui tu chantes.
Mais moi je sais.
Moi je sais.
Vas-y, go. Let's go.
Come on.
Il
faut que je
reviens.
Il faut que je reviens.
Oh, hallelujah.
tient encore. La Bible dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Alors si tu respires, vas-y quand tu chantes.
Nous sommes dans la chronique Dieu agit, une chronique consacrée au témoignage. Alors, Mildred, que nous as-tu concocté?
Alors, pour le témoignage d'aujourd'hui, je vais vous présenter Benjamin. Ben a connu plusieurs problèmes depuis enfant. Il habitait dans un quartier pauvre aux États-Unis avec sa mère, son père et son frère. Quand il était encore enfant, son père les a quittés pour une autre femme. Bon. Terrible. Sa maman travaillait comme employée de maison et cachait son analphabétisme à ses deux enfants. Ben n'avait pas trop envie d'étudier et il passait la plupart du temps avec son frère à regarder la télé. Leur mère a rapidement compris qu'il fallait trouver une occupation efficace pour ces deux garçons s'ils voulaient bien réussir dans leur vie. Voilà une maman bien décidée et persévérante qui demandait chaque jour à ses enfants d'aller à la bibliothèque après l'école et à la fin de la semaine, ils devaient faire un résumé des livres qu'ils avaient lus pendant toute la semaine. Pas mal, hein, maîtresse?
Bah, franchement, ouais. Beau défi. Hein.
Ouais. Alors, Ben grandit et devient un adolescent. Régulièrement, il était confronté à la pauvreté, aux mauvaises compagnies et aussi au racisme. Il est devenu un garçon violent. Par exemple, une fois, il a fondu le front d'un camarade de classe avec un cadenas.
Oh punaise, c'est pas un petit truc là quand même.
Non. Une autre fois, il a brisé les lunettes d'un garçon avec une pierre.
Aïe.
Encore une autre fois, il a menacé de frapper sa mère et il a failli tuer un proche avec un couteau.
Oh, là on peut vraiment dire qu'il a explosé de rage. Hein.
Ah oui, la colère était vraiment présente en lui. Cette tentative de meurtre était vraiment grave. En fait, il a tenté de poignarder un ami qui l'avait mis en colère. Mais heureusement pour tout le monde, la lame du couteau s'est cassée justement sur la boucle métallique de la ceinture du garçon en question.
Ouais, c'était vraiment ça.
Ah ouais, ouais, c'était à quelques centimètres. Alors, suite à cet événement, Ben s'est enfermé avec une Bible dans la salle de bain, de sa maison, et pendant 2 heures, il s'est mis à lire la Bible. Il a commencé à lire et à un moment donné, il est tombé sur un passage qui se trouve dans Proverbes.
Quelqu'un qui ne se met pas en colère, vaut mieux qu'un héros. Celui qui est maître de lui vaut mieux qu'un chef de guerre.
Alors, en lisant cette partie de la Bible, il avait l'impression que ce verset avait été écrit pour lui, spécialement pour lui. Ben a beaucoup prié en demandant à Dieu de lui enlever ses tempéraments colériques. Il a demandé à Dieu une transformation radicale. Sa vie n'a pas été simple, sa vie n'a pas été parfaite, mais avec beaucoup d'efforts, avec beaucoup de prières et en étant uni à Dieu, il a réussi à changer la situation. Alors Ben s'est beaucoup appliqué et a réussi brillamment ses études. Il est devenu plus tard un des neurochirurgiens les plus brillants au monde. Peut-être vous connaissez Ben Carson.
Tout à fait.
Et oui, en effet, le docteur...
Il a écrit le livre Les mains du miracle, non?
C'est ça, ouais. Alors voilà, donc il est devenu le docteur Benjamin Carson et il a été le premier neurochirurgien à avoir séparé deux siamois reliés par la tête. Sa vie professionnelle a été une grande réussite, ainsi que sa vie privée. Il s'est marié et aujourd'hui il a deux enfants. Ben a aussi fait partie de la vie politique aux États-Unis jusqu'à il n'y a pas longtemps et actuellement il continue à servir l'odieux qui a chassé la colère de son cœur.
Sephora, la colère, alors la parole est à toi.
Donc en fait, j'aime toujours commencer par une petite histoire, une petite expérience où voilà, j'ai un peu vécu des propos un peu déplaisants et pourtant sans raison apparente. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé.
Ouais, de temps en temps, ça arrive toujours.
Et puis, voilà, du coup, je me dis, mais est-ce que j'ai fait quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, mais jusque-là, ça va. Et puis, je me mets vraiment en colère parce que je ne comprends pas.
on peut comprendre.
Oui, là, je ne comprends pas. Et puis, une fois, ça m'arrive, deux fois, trois fois. Bon, là, je me dis, bon, quand même...
Ça suffit.
Faudrait quand même Sephora arrêter un petit peu. Et puis, je discute avec un ami professionnel de santé dans la psychologie et il me pose trois questions. Es-tu obligé de te mettre en colère? Es-tu responsable de ce que pense l'autre? N'es-tu pas maître de tes émotions? Donc, ces trois questions, vraiment, sur le coup, j'ai pas trop tilté. Mais quelques temps après, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais effectivement, il peut y avoir un changement à ce niveau-là. Et c'est pour ça que j'ai un peu donné le titre de ce partage, « Chasse la colère ». Dans Genèse 4 au verset 7, on dit « Si tu agis comme il faut », tu reprendras le dessus, sinon le péché est à ta porte. Comme un monstre à l'affût, il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. Donc, ça relate un petit peu l'histoire de Caïn et Abel, qui, ce sont des frères, et on comprend bien que les deux aiment Dieu. Abel offre un sacrifice à Dieu, des premiers-nés, du bétail, et Caïn offre les fruits de la terre, etc. Il est vrai que, Dieu, accorde en tout cas un regard favorable sur l'offrande d'Abel et n'offre pas un regard favorable sur celui de Caïn. Il n'est pas donné plus de précisions, on peut spéculer, mais c'est comme ça. Par la suite, sans crier garde, on voit que la colère vraiment de Caïn arrive comme ça. Mais par rapport à la situation, vous comprenez bien que c'est un peu compliqué. Mais on ne dit pas que la colère était là depuis le départ. Elle arrive brusquement et il se met très en colère et il est renfrogné, mécontent. Et là, on voit quand même l'attitude de Dieu qui dit « Mais pourquoi es-tu en colère? Mais pourquoi es-tu renfrogné au final ?» Et là, Caïn, il ne répond pas. Il est silencieux. Plus rien. Silence. Et on voit en fait que Dieu en fait, est en train de l'interpeller, de faire comme si de la prévention. Mais voilà, pourquoi t'es en colère? Mais dis, lâche ton sac ou dis-moi ce que tu as en fait. Et dans le verset 7 que je viens de vous lire, où il dit que voilà, tu peux dominer cette colère, pour moi, il est à un choix, en fait. Donc, ok, tu es en colère, mais jusqu'ici, tu m'entends. Et que je peux encore t'interpeller. Mais à partir du moment que, en fait, ce péché qui... Ils disent que le péché, il est couché. Donc, est-ce qu'il est dangereux, là?
Il attend.
Voilà, il attend. Donc, il attend un peu l'approbation de Caïn pour pouvoir surgir et pouvoir...
Entrer en action.
Voilà, et être vraiment comme ce monstre-là qu'on évoque. C'est vrai que ça pousse à la réflexion de savoir qu'on a quand même le choix. que la colère est quelque chose qui peut nous habiter, mais au final, on a le choix de décider qu'est-ce qu'on en fait. Qu'est-ce qu'on en fait et où on veut y aller, où on veut aller. Le péché, vraiment, dans cette facette de l'histoire, nous montre que c'est vraiment un refus de, à Caïn d'accepter le pardon de Dieu au final, parce qu'il est là, un peu léthargique, il dit rien, donc ça se nourrit. Et le pauvre, je pense que c'est compliqué, c'est compliqué à vivre. Mais on voit que Dieu est là et l'interpelle. Mais dans son silence, malheureusement, Caïn, il réagit, mais il est déjà un peu trop tard. Il a déjà fait l'action de déraisonner, en fait. Alors, on va dire à quel moment que la colère est raisonnable ou déraisonnable.
Vaste question.
Telle est la question. Voilà, mais c'est vraiment pour dire que, voilà, lorsqu'il y a une colère, en tout cas, il y a quand même cet accueil de cette frustration qui nous habite. Par la suite, on peut parler de répondre favorablement à l'interpellation que Dieu nous fait, en fait, pour pouvoir nous aider à dominer cette colère. Il y a aussi cette facette d'accepter, au final, le pardon que Dieu nous donne sur nous-mêmes. Parce que je crois qu'il s'en voulait tellement que ça a pris toute une place vraiment déraisonnée. Mais c'est vrai que dans nos expériences de vie, on voit que la colère peut être très dangereuse et elle peut amener à des meurtres ou des choses très difficiles. Et pourtant, quand les gens sont interrogés quelques minutes après, ou bien ils se disent « Mais, ah bon ? J'ai fait ça ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? J'étais pas moi-même, je ne pense pas, voilà. » Mais c'est quand la colère est redescendue. Donc, on voit qu'il y a quand même cette notion de... que c'est déraisonné, en fait. Ça, c'est plus raisonnable et on n'arrive plus à avoir le contrôle sur soi. Donc, je peux dire que continuer dans ce cheminement spirituel avec Dieu, lui, du moins, pouvoir, en tout cas, rester dans cette liberté de pouvoir dire son émotion actuelle. Pour moi, c'est déjà pas mal. Je suis en colère, Seigneur. On va dire, certaines ne pourront pas le dire, mais en tout cas, moi, je dis que c'est proche. On dit son émotion du moment. Je suis fâchée contre X, contre Y. Et des fois, ça arrive, on comprend pas pourquoi telle situation nous arrive. Et dit, Seigneur, ben, je suis fâchée avec toi parce que là, je comprends pas. Il y a cet enfant qui est malade ou voilà, on n'arrive pas tout à fait à saisir. Mais là, c'est déjà un dialogue. C'est déjà une entrée en matière qui permet en tout cas à l'autre de pouvoir réfléchir, de pouvoir laisser Dieu intervenir et agir dans son subconscient et aussi dans ce qu'il est.
Mais aussi déjà quand on verbalise quelque chose,
oui.
Tout est posé. Et là, ça nous permet de réfléchir davantage.
Exact. Effectivement, c'est vrai que quand j'ai des amis, ben, j'ai un peu la tête chargée et puis je dis « bon, ben, c'est pas forcément que j'ai envie de me plaindre, mais... juste envie de parler et je prends le temps de discuter et puis après, tout va bien. Mmh. Le problème, ça va mieux. Lorsqu'on dit « on a des personnes qui reformulent », ben non, ben, finalement, ta situation n'est pas si grave, donc ça va aller, quoi. Donc, c'est vraiment ce chemin d'ouverture. Du coup, c'est vraiment donc dans Jean 16, verset 33, qui nous dit « Je vous ai dit tout cela pour qu'en restant unis à moi, vous ayez la paix. » Alors, c'est vraiment... c'est en Christ qu'on a la paix. Donc, au final, c'est quelque chose qui émane de lui. Et lorsqu'on dit « en », c'est comme si on est complètement couvert de cette grâce-là et qui nous porte, en fait. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait, en tout cas, l'expérience de vivre un moment où vous êtes vraiment en colère et puis de se mettre à genoux et de prier et vraiment d'être dans cette émotion vive, mais quelques minutes après.
C'est dur, hein, de, quand t'es en colère, de dire « j'ai prié, c'est le bon moment, là ».
Oui, oui, c'est sûr. Après, la position, c'est comme vous voulez, parce que je pense pas, bon, en tout cas, pour moi, me mettre à genoux, ce serait encore autre chose, mais...
Quelle que soit la position, de dire « là, je suis en colère, c'est le bon moment pour parler à Dieu », tu vois.
Oui,
c'est pas
oui,
qui vient en premier.
Non,
donc,
c'est pas la première idée.
C'est sûr.
C'est beau de...
On apprend, c'est vrai qu'en général, avant de passer par Dieu, on essaie d'appeler un ami. On est un vis-à-vis, quelqu'un avec qui on est proche. Ben là, je suis fâchée. Qu'est-ce que tu as? Voilà. Donc, quelque chose de plus, comment dire, relationnel. Parce que des fois, on a besoin d'avoir quelqu'un qui est posé devant nous et qui nous dit, ben écoute, je t'écoute. Je suis à ton écoute. Et ça peut changer pas mal de choses. Mais c'est vrai que comme on est dans un cheminement, on essaie de tendre au mieux à ce type de réaction. Voilà. Donc, c'était vraiment ce que je voulais partager avec vous. Dans la responsabilité que nous avons avec Dieu, la responsabilité que Dieu a envers nous aussi, et ce qui permet en tout cas d'avoir une relation, des relations et un environnement plus sain.
Si tu viens de nous rejoindre, bienvenue, tu es au Culte Espoir. Alors aujourd'hui, Sephora Gerkus nous a parlé du thème de la colère. Alors Sephora, tu nous as parlé donc de l'histoire de Caïn et Abel. Le grand frère tue le petit frère Abel, car il est fort en colère. Colère parce que Dieu n'accepte pas, il rejette son offrande. Et nous sommes dans la chronique, et toi ça te parle, et du coup, c'est une chronique où c'est un moment de partage où nous réagissons à chaud sur ce qui nous a interpellés. Alors, Amandine et Mildred, la parole est à vous.
Je commence ?
Vas-y.
Allez, à un moment donné dans ton partage, tu as dit que Caïn, il est en colère envers lui-même et que du coup, peut-être culpabilité de se dire « j'ai pas fait la bonne offrande », etc. Et moi, ça m'a fait réfléchir aussi sur est-ce que cette colère, elle est que dirigée envers lui-même ? Enfin, elle est dirigée envers lui-même, elle est dirigée envers son frère. Et puis moi, j'avais envie de réfléchir aussi au fait que je pense que c'est une interprétation personnelle. Mm-hmm. Je pense que cette colère, elle est dirigée contre Dieu aussi. Je pense, ça me donne l'impression que Caïn, il n'a pas compris qui était Dieu. Mm-hmm. Et je pense que, et parce que ça reflète aussi sur comment nous, aujourd'hui, parfois, on peut réagir face à des choses qu'on vit qui sont injustes, pas justes, enfin, des choix qu'on a fait qui sont mauvais, ou des trucs qu'on n'a rien fait, qu'on n'a rien choisi, et puis que, voilà. Et puis, on peut, à travers ces événements, voir Dieu finalement du coup comme un Dieu qui est injuste ou un Dieu qui ne nous aime pas peut-être qu'il s'est senti rejeté de Dieu en se disant « Mais attends, je suis moins aimé par Dieu que mon frère. Pourquoi? Comment ?» Ouais. Et puis, au lieu d'accepter ce dialogue que Dieu offre, finalement, il se renferme. Et je me dis, c'est tellement triste finalement qu'il n'ait pas pu justement rentrer dans ce dialogue, à oser dire à Dieu comme tu proposais, à dire ouais. « Moi, je suis en colère, en fait. Mm-hmm. » Je suis même en colère. Enfin, je piche
ouais,
pas
je comprends
qui
pas,
tu
ouais,
es.
C'est
je ça. Piche pas qui tu es. Là, je comprends pas le Dieu que tu es. Parce que là, moi, ça fait pas sens. Ben, apporte-moi ta vérité, là. Parce que sinon, moi, je suis en train de vriller. Puis je vais faire des trucs
que je devrais pas
ouais. faire. Alors, ça, c'est une première réaction que j'avais envie d'avoir par rapport mm-hmm. à ça. Et toi?
Ouais, mais pour ça, tu vois, souvent, il y a des personnes qui disent, qui nous donnent plein de conseils. Ah, t'es trop énervé, stressé. Alors, respire, compte jusqu'à 10.
Ça m'a ça m'a ça aide pas ma colère.
Mais n'empêche que ça marche.
Oui, c'est vrai.
Bah, si on prend le temps de réfléchir un petit peu, de poser les choses et d'y aller, je vais vraiment compter jusqu'à 20, peut-être, parce que 10, ça ne suffit pas. Mmh. Et le temps de retrouver sa sérénité, ça pourrait marcher. Mais là, c'était vraiment l'explosion. Je ne veux pas en parler et je ne veux pas t'écouter non plus. Et je fonce, j'ai décidé ça, j'y vais. Et il y a tellement de gens, quand on voit des documentaires, par exemple, qui disent « Ah oui, je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, mais c'était vraiment la rage. Et finalement, j'ai tapé, j'ai tué, j'ai fait ci. » J'aurais pas dû. Si j'avais mieux réfléchi, sûrement je ne l'aurais pas fait.
Mais ça me fait penser qu'avec la colère, il y a des fois aussi un sentiment d'urgence. Qui est c'est faux. Ça. Moi, je me rappelle. Enfin, moi, je suis prof et des fois, mes ados d'élèves me mettent en colère. Et ça m'est arrivé une fois, un jeune, jamais devant la classe, toujours en fin d'heure, où on discute. Et ça m'est arrivé de lui dire, écoute, je suis tellement en colère qu'on va pas parler maintenant. Parce que là, je risque de dire des choses et de prendre des mauvaises décisions.
Ça va dépasser ta pensée.
Ouais. Voilà, je vais dépasser ma pensée. Donc, et je pose un rendez-vous parce qu'il faut qu'il y ait quand même le pauvre, on va pas le laisser, voilà, pour plus tard. Juste le temps d'enlever ce sentiment d'urgence parce qu'il va falloir que ça soit réglé. Mais là, tout de suite, j'ai surtout besoin de faire ce que tu dis, c'est-à-dire de me calmer, prendre du recul. Okay.
Ouais, parce que des fois, on peut dire des choses et on va vraiment regretter plus tard.
Mais c'est intéressant surtout le fait que tu dis mettre des émotions. Donc, ça veut dire ne pas enlever les émotions. Les émotions sont là, elles sont bonnes.
Ouais, la colère
d'ailleurs,
est une
on voit
émotion.
Bien contre Jésus, il a été en colère contre ces personnes qui étaient en face du temple dans les évangiles et qui chassent ces personnes du temple. Et on voit que vraiment, il est en colère. Mais c'est après ça. Cette colère, il ne reste pas en colère en disant « je vais les tuer derrière ». Et je crois vraiment, je crois vraiment que c'est cette colère qui est bonne pour se faire respecter. Mais après... il faut s'en débarrasser et ne pas se laisser dépasser parce que après du coup ben tu penses plus et tu fais des actes qui justement ben dépassent cette pensée qui te font faire des actes alors que tu aurais jamais vraiment fait ça mais tu te laisses emporter par cette colère et ce fameux tapis dans l'ombre qui va te guetter si tu es en colère. Ben voilà, ça je le vois vraiment dans cette idée-là.
Oui, tout à l'heure, elle avait dit, toi, Sephora, tu avais dit que je ne suis pas responsable de ce que l'autre pense. Mmh. C'est vrai. Par contre, si j'enfonce un petit peu le couteau, d'accord, je ne suis pas responsable de ce qu'il pense. Par contre, ce qu'il fait, j'ai subi des conséquences graves.
Oui, c'est
Par exemple, il y a des gens qui vont s'acharner sur quelqu'un d'autre à cause de sa couleur de peau, à cause de sa nationalité, à cause de plein de choses. Hein. On peut toujours trouver une raison pour harceler quelqu'un, toujours trouver une raison pour aller provoquer. Là, on va dire, ma colère serait justifiée, mais finalement pas. Alors, comment faire?
Très bonne remarque. Là, on se tourne vers l'invité.
Vas-y, à toi.
Alors, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est vrai que je dis pas forcément non plus que toute colère est justifiée. Mais dans des situations très spécifiques, où je veux dire, moi, par exemple, lorsque j'étais en primaire, il y avait un garçon qui m'harcelait tout le temps, etc. Mais ça a pris du temps. J'étais encore jeune, donc forcément, j'avais une grosse colère. Je sais, voilà, tu as dit à la maîtresse, bon, ça passe pas. Tu as dit aux parents, bon, ils sont venus,
ça passe
pas. Le
problème n'est pas résolu.
Et du coup, j'ai dû à un certain moment vraiment être en colère et puis dire stop. Et c'était fini.
Voilà. Après, j'imagine que c'était maîtrisé. Tu l'as pas tabassé.
Si cette colère, à ce moment-là, c'est juste que ça te permet de réaliser ceci n'est pas normal. Il faut des limites.
Voilà.
Et qu'après, ton action n'est plus dans la colère. Mm-hmm. Bah, dans ce cas-là, cette colère, elle t'a permis justement de faire sens et puis de te positionner.
Exact. Mm-hmm. Parce qu'on dit samedi, on parlait un petit peu de ne pas être paillasson ni hérisson. Donc, trouver un juste milieu pour pouvoir rester quand même dans cet échange, quoi. Et puis, je ne sais plus exactement ce que tu disais par rapport à la colère.
Sur la colère envers Dieu.
La colère envers Dieu. Ben, ce sont des choses qui arrivent. Alors, par rapport à Caïn et Abel, c'est assez... Du moins, ça pose vraiment à réflexion dans le sens que c'est le plus grand frère qui a une offrande qui n'est pas acceptée. Logiquement, dans cette lignée-là, c'est le père qui enseigne, etc. Mm-hmm. Donc, logiquement, le grand frère doit être
très au courant
comment ça que se fait. Abel. Mais après, le texte ne le dit pas, on va rester souple là-dessus. Mais je veux dire qu'il y a quand même cette responsabilité en tant que fils aîné, en plus, de pouvoir...
D'où le fait qu'il y ait vraiment une incompréhension sur qui est Dieu, même donc à la base, en fait. S'il n'offre pas quelque chose qui est gré à Dieu, alors que ça fait partie de l'éducation de le savoir, finalement, il y avait quand même dans la relation...
Mais en même temps, il n'est pas du coup accessible actuellement. Alors, l'offrande n'est pas acceptée, mais voilà, il n'y a pas de conséquences particulières, en tout cas.
Ouais, il aurait pu tout simplement discuter et gérer ça avec Dieu.
Aller voir son papa, je ne comprends pas, ça va marcher.
Donc, voilà, on peut encore...
Ben oui, c'est... vaste discussion, oui. On peut encore échanger. Très intéressant en tout cas, mais j'aimerais interpeller l'auditeur et l'auditrice. Comment ça te parle chez toi à la maison, alors que cette réflexion puisse continuer de mûrir en chacun d'entre nous?
Thank you. de choses nouvelles prêtes à éclore. Je publie ta gloire.
Pour cette chronique où l'on parle de notre thème à travers le prisme de l'art, j'aimerais te partager un poème qui sera suivi d'un temps de musique instrumentale où je t'invite à prendre un temps avec Dieu pour faire résonner ce que tu as entendu jusque-là. Laissez Dieu te parler. Je remercie Brian qui va lire ce poème avec moi. Il s'intitule « Face à ta colère ».
Face à ta colère, j'observe, j'écoute. L'instinct de survie, le sentiment d'impuissance, la frustration, grasse et douloureuse. La compréhension, le sentiment d'urgence de faire bouger, de secouer, de ne pas céder. À la panique, au désespoir.
Face à ta colère, j'observe, j'écoute. Ton cœur qui saigne, qui ne comprend pas. Ton incompréhension face à toi-même et face à Dieu. Les défis qui ne font pas sens, l'impuissance. Les « je vais où ?» et « je fais quoi maintenant ?»
Face à ta colère, j'observe, j'écoute.
La honte des mauvais choix passés.
La peur de lâcher prise.
De perdre le contrôle sur ce que je ne peux contrôler.
De faire le deuil de ce qui ne pourra plus changer.
Face à ma colère, comment je te vois, Dieu ?
Comment je te comprends ?
Au-delà de ce que ma tête veut penser de toi,
comment mon cœur te perçoit, ô Père ?
Par ton esprit vient révéler ce que ma colère veut cacher.
Par ton esprit vient révéler ce qui a besoin d'être restauré.
Par ton esprit que ta vérité libératrice sur tout mon être
vienne éclater.
Seigneur Dieu, merci en tout cas de cette étude autour de la colère. Tu nous montres en tout cas à travers ce récit que nous pouvons être animés par cette émotion de colère et que tu es celui qui nous interpelle à travers cette émotion. Tu es celui qui veut en tout cas que nous soyons délivrés de cette colère pour que nous soyons en paix et vivre pleinement, Seigneur, comme tu le souhaites. C'est vrai que ce sont que des mots, Seigneur, mais dans l'attitude, Seigneur, c'est un peu plus compliqué. Mais nous voulons, Seigneur, te mettre au centre de notre attitude et au centre de nos émotions, au centre de notre vie, pour qu'en découle, Seigneur, de bonnes choses et de bons fruits. Nous pensons, Seigneur, à tous ceux qui vivent en tout cas ces moments de colère et qui, d'une manière ou d'une autre, ont été interpellés. Continue, Seigneur, ce chemin de délivrance de cette colère, et que tu puisses prendre toute la place qui t'est due, car je crois que tant que nous serons sur cette terre, nous aurons en tout cas cette émotion qui feront ressurgir, Seigneur, les injustices, la méchanceté humaine et bien d'autres choses. Mais nous sommes conscients que maintenant, Seigneur, tu nous restaures. Au nom de Jésus. Amen.
Oui, Seigneur Dieu, parfois il est tellement difficile de contrôler nos émotions. Aujourd'hui, je te demande de guérir les cœurs blessés et agités. Je te prie de guérir les blessures qui nous font tellement mal. Rentre dans nos vies, dans nos cœurs, et enlève toute colère, rage et haine. Tu connais, Seigneur, la souffrance et les problèmes que notre auditeur traverse maintenant. Nettoie toutes ses pensées, ses souvenirs qui lui font tellement mal. Aide, Seigneur, cette personne à contrôler sa colère, à réfléchir avant d'exécuter un mauvais acte et qu'elle ne prenne pas de mauvaises décisions. Aide-la à gérer cette situation et à ne pas perdre le contrôle. Toi seul, Seigneur, toi seul, tu es capable de nous apporter de la sérénité et tu peux nous offrir l'équilibre dont nous avons besoin. Remplis-nous d'humilité, de bienveillance et d'amour. Amen.
Amen.
C'est bientôt la fin, mais pas encore tout à fait. En tout cas, passons à l'action du jour. Aujourd'hui, nous avons évoqué le thème de la colère. Cette émotion qui peut être vécue comme nécessaire, mais elle ne doit pas entraver qui tu es, ce que tu penses ou comment tu vis. Alors, je te propose de te poser dans un endroit tranquille, de ta chambre, de ton salon. Alors, seul, c'est mieux. Pense à des choses qui t'ont mis en colère, et qui te mettent encore en colère actuellement, ou qui te font un petit pincement quand dans le cœur tu y penses et que voilà, tu te sens pas très bien. C'est bon, tu l'as identifié. Et ben maintenant, tu vas tout refourguer cette colère à Dieu. Tu vas vraiment lui déposer et dire que tu n'en veux plus. Alors tu peux écrire par exemple sur une feuille ce que tu ressens face à cette situation. Ça peut peut-être t'aider à comprendre pourquoi tu es encore en colère. Et tu te dis, voilà Seigneur, je te refourgue cette colère, hein. Je ne sais pas la gérer, je ne veux plus la gérer, j'ai besoin de ta force pour avancer, j'ai besoin de ton aide. Je te laisserai observer ce que Dieu aura mis dans ton cœur à ce moment-là. Alors n'hésite pas à reproduire autant de fois qu'il est nécessaire cette opération pour que Dieu mette vraiment sa vérité en toi. Sois béni et accompagné par Dieu pour ces nouvelles expériences.
Amen, merci. Alors avant la conclusion de ce culte, j'aimerais prendre un temps, on le fait pas souvent, pour te bénir, cher auditeur et auditrice, poser des paroles de bénédiction sur toi et sur ta vie. Et pour ce faire, je vais utiliser le chant bénédiction du groupe Antidote. Que l'Éternel te bénisse et te garde.
Que l'Éternel te bénisse et te garde. Sur toi, qu'il t'accorde sa grâce, t'environne de sa paix, que l'Éternel te bénisse et te garde. toi, il l'a fait avec toi. Une alliance éternelle, son secours ne manque pas. Et pendant le combat, tes forces il renouvelle. Oh 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 oh. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Pour toi des chants de joie. Hey, l'Éternel Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui vient te sauver. L'Éternel Dieu est au milieu de toi, il chantera pour toi des chants de joie.
Nous sommes arrivés à la fin de ce culte.
Oh.
Ouais, tout à fait. Mais c'est tout aussi bénéfique parce qu'on va pouvoir commencer une nouvelle semaine pour participer, pour expérimenter des nouvelles aventures avec Dieu. Alors j'aimerais te remercier, Séphora, d'être venue partager ce message. D'ailleurs, tu reviens la semaine prochaine, c'est ça? Et de quoi vas-tu nous parler cette fois-ci?
Alors la semaine prochaine, je vais vous parler d'une marche relationnelle.
De la marche.
Entre la marche très dynamique.
La marche relationnelle.
Eh bien, auditeur, auditrice, tu as entendu, ne manque pas de venir la semaine prochaine. Merci Séphora, merci Amandine, merci Mildred pour vos chroniques.
Merci à toi, Brian.
Quant à moi, je te souhaite, toi qui nous écoutes, une belle semaine et je te dis, comme d'habitude, à la semaine prochaine. Ciao.
C'était le culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.